VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique. Il est 18h30 à Dakar, 19h30 à Kinshasa. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire ce soir, très faible mobilisation en RDC après l'appel à manifester de l'opposition. Au Mali, l'ancien président Amadou Toumani Touré devrait bientôt rentrer d'exil. Enquête en cours suite au déraillement d'un train dans l'état de Washington aux États-Unis. Et puis l'Arabie Saoudite dit avoir intercepté un missile au-dessus de Riyad pour la deuxième fois en 2 mois. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Nouveau rendez-vous manqué en RDC pour le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. La marche annoncée par son président Félix Tshisekedi pour exiger la tenue des élections conformément à l'accord du 31 décembre 2017 n'a pas eu lieu. Dans plusieurs chefs-lieux des provinces, des personnes qui s'apprêtaient à manifester ont été dispersées par la police. Les détails avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Prenez au sérieux cette marche de sommation. Sortez massivement, je serai avec vous. Ils ont peur car ce n'est plus qu'une question de quelques jours, a déclaré Félix Tshisekedi pour inviter ses sympathisants à la marche que l'UDPS, au nom du rassemblement, a prévue ce mardi 19 décembre 2017. Le président du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a par ailleurs rappelé à l'assistance que c'est le peuple qui est souverain et que ceux qui disent que Kabila ne partira pas par des marches ont tout faux. En réaction à cette activité que compte organiser l'opposition, le gouverneur de la ville de Kinshasa a, à travers une correspondance, refusé de prendre acte de la manifestation de ce jour. En clair, André Kimbuta interdit la marche de l'opposition et demande à la police de prendre des mesures pour en empêcher l'organisation. L'UDPS a, malgré cette interdiction, maintenu sa manifestation, ce qui laisse entrevoir un bras de fer dans les rues de la capitale de la RDC. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, 4 personnes ont trouvé la mort hier dans le déraillement d'un train de transport de marchandises dans le centre du pays. L'ensablement du réseau ferroviaire est à l'origine de l'accident, selon un responsable de cette société ferroviaire. L'attaque au couteau perpétrée samedi contre 2 Danois à Libreville au cri de Allah Akbar était un acte prémédité. Steven Dong et Samin Gdong, procureur de Libreville, a publié les premiers résultats de l'enquête. L'agresseur est un Nigérien de 53 ans qui vit au Gabon depuis 19 ans. Selon le procureur gabonais, l'assaillant séjournait à Libreville depuis le 14 décembre dans le but de commettre cet acte. C'est la première attaque à connotation islamiste et dirigée contre des Occidentaux au Gabon. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré devrait bientôt rentrer de son exil sénégalais. L'annonce a été faite par des membres de sa famille politique. ATT s'est réfugié au Sénégal il y a 6 ans, après le coup d'État mené par le capitaine Amadou Aya Sanogo. L'Assemblée nationale a renoncé à poursuivre l'ancien président en justice. Mohamed Touré a joint à Bamako le secrétaire à la communication du Parti pour le développement économique et la solidarité, Noum Togo.
Les conditions qui sont réunies à travers l'ensemble de nos recherches, dans l'ensemble de nos activités que nous avons menées, auprès du président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, avec la communauté internationale, ont finalement pu convaincre le président. Il a pris la décision politique de demander au président de retourner. Et le président Amadou Toumani Touré a accepté. Et les conditions sont réunies. Et le dimanche 24, il envoyera l'avion présidentiel pour aller chercher le président Amadou Toumani Touré à Dakar, destination Bamako.
Noum Togo, secrétaire à la communication du Parti pour le développement économique et la solidarité au Mali. Le Mali et la France ont lancé le premier projet financé par Paris dans le cadre de l'Alliance pour le Sahel. L'Agence française de développement s'est engagée à ouvrir une ligne de crédit de plus de 19 milliards de francs CFA. Une ligne de crédit donc à la Banque nationale pour le développement agricole du Mali qui va l'aider à financer le développement des exploitants agricoles, des PME-PMI et des institutions de microfinance. Cette initiative veut aider au développement de cette région pauvre et en proie aux attaques djihadistes. En Côte d'Ivoire, les avocats de la défense ont quitté l'audience au deuxième jour du procès de l'ancien ministre Hubert Houlaye, accusé de complicité d'assassinat dans le cadre de la mort de 7 casques bleus et 8 civils en 2012. Ancien ministre de la fonction publique de l'ex-président Laurent Gbagbo dans les années 2000, Monsieur Houlaye est accusé d'avoir fourni via des intermédiaires 2 millions de francs CFA pour acheter des armes qui ont servi à perpétrer ces attaques. La justice sud-africaine a ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire du trafiquant d'armes néerlandais Gus Kouwenhoven. Marchand de bois précieux, ce citoyen néerlandais est reconnu coupable d'avoir livré illégalement des armes au régime de Charles Taylor entre 2000 et 2003 en violation de l'embargo sur les armes décrété par les Nations Unies. Jugé par contumace aux Pays-Bas, Gus Kouwenhoven a été condamné à 19 ans de réclusion pour trafic d'armes et complicité de crimes de guerre en Guinée et au Libéria. Oscar Pistorius, le champion paralympique sud-africain, a saisi la Cour constitutionnelle pour faire appel de sa condamnation à 13 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie, Riva Steenkamp, en février 2013. Et puis le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies compte évacuer vers des pays tiers entre 5 000 et 10 000 réfugiés en situation très vulnérable en Libye en 2018.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
3 personnes sont mortes et une centaine de blessées lundi dans l'accident de train reliant Seattle à Portland dans le nord-ouest des États-Unis. Plus de détails avec Raïssa Girondin.
Le train qui assurait la liaison entre Seattle et Portland a fini sa course sur l'autoroute lundi, faisant 3 morts et une centaine de blessés, dont des automobilistes. Le train passait sur un pont enjambant une autoroute dans l'état de Washington lorsque 13 de ses 14 wagons sont sortis des rails. Selon l'autorité fédérale des transports, le train roulait à 128 km/h dans une zone limitée à 48 km/h. Et selon les experts, ce déraillement aurait pu être évité si un système de limitation de vitesse utilisé depuis des années avait été installé sur ce tronçon. Sur Twitter, le président américain Donald Trump a évoqué cet accident qui montre, selon lui, la nécessité pour le Congrès d'approuver un plan national de modernisation des infrastructures. Nos routes, nos ponts, nos tunnels, nos chemins de fer tombent en ruine, plus pour longtemps, a-t-il écrit.
Le Congrès américain a préparé une enveloppe exceptionnelle de 81 milliards de dollars pour aider les États affectés par les récentes catastrophes naturelles, de la Californie à Porto Rico, en passant par le Texas et la Floride, des crédits qui s'ajoutent aux 52 milliards votés en urgence à l'automne. Les élus sont allés bien au-delà des 44 milliards que la Maison-Blanche avait demandé. C'est la deuxième fois en 2 mois que l'Arabie Saoudite a intercepté au-dessus de Riyad un missile balistique tiré par les rebelles yéménites Houthis, ce qui fait craindre une montée des tensions dans le Golfe. Le point avec Ekia Badou.
L'Arabie Saoudite dit avoir intercepté un missile au-dessus de la capitale. Pour Riyad, les rebelles Houthis yéménites l'ont tiré contre le palais du roi Salman. Le royaume saoudien s'est empressé de qualifier cette attaque d'Irano-Houthi. Aucune victime selon les autorités, mais il visait des zones résidentielles très peuplées de Riyad. Le tir du 4 novembre visait l'aéroport. Washington a affirmé que le premier missile était de fabrication iranienne, ce que Téhéran avait aussitôt démenti, disant qu'il s'agit de fabrication mensongère. L'Arabie Saoudite avait renforcé le blocus sur le Yémen, aggravant encore la situation humanitaire déjà catastrophique. La guerre a fait près de 9000 morts et des dizaines de milliers de blessés. En outre, depuis fin avril, plus de 2000 personnes sont décédées du choléra. Suite à de nombreuses pressions sur le royaume saoudien, ce blocus a été allégé.
Conflit syrien, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'un an la résolution autorisant l'acheminement à travers les lignes de front de l'aide humanitaire, une aide humanitaire destinée aux populations vivant dans les zones rebelles. La Russie, première alliée de Damas, la Chine et la Bolivie se sont abstenus. Près de 4500 citoyens russes sont partis à l'étranger pour combattre du côté des terroristes. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les services de sécurité russes qui craignent leur retour maintenant que le groupe État islamique a perdu la quasi-totalité de son territoire en Syrie et en Irak. Et puis la Maison-Blanche a officiellement accusé la Corée du Nord d'être à l'origine de la cyberattaque WannaCry qui avait touché des dizaines d'ordinateurs et dans dizaines de pays à travers le monde en mai dernier. Des pirates informatiques avaient pris le contrôle de milliers d'ordinateurs exigeant des rançons. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Mercredi dernier, la Banque centrale américaine a relevé les taux d'intérêt de 0,25%. L'ancien banquier Prime Nyamoya, consultant auprès de la BAD, explique cette décision de la Fed.
D'avoir une croissance économique soutenue qui approche les 3% en rythme annuel. Le taux de croissance a atteint son plafond. Ensuite, le taux de chômage atteint 4,1%, soit le plus bas niveau depuis 17 ans. Nous sommes dans une situation aux États-Unis de plein emploi. Au-delà de cela, cette situation va créer tout simplement une inflation. C'est pour cela que le relèvement a pour objectif une volonté de juguler l'inflation.
Est-ce une bonne nouvelle pour le consommateur américain?
Pour l'instant, non. Je pense que les taux d'emprunt pour les entreprises et les particuliers devront augmenter, ce qui risque de ralentir les investissements et la consommation. D'autre part aussi, l'argent à taux zéro avait permis la hausse des marchés d'actions depuis 8 ans. La nouvelle politique de la Fed risque d'y apporter des corrections de grande ampleur.
Quel sera alors l'impact sur les pays africains qui utilisent le dollar pour leurs importations?
Cela dépendra surtout de l'évolution de la monnaie américaine sur le marché d'échange. Si le dollar, comme c'est probable, est en hausse, donc les pays africains vont certainement y perdre en payant un peu plus, surtout pour les importations du carburant, qui constitue quand même une grande part des importations des économies africaines. En baisse, ils pourraient y gagner si c'est couplé avec une chute des cours du pétrole, ce qui est également probable. Nous sommes ici dans le domaine de la probabilité, pas dans le domaine de la certitude.
Prime Nyamoya, ancien banquier et consultant auprès de la BAD.
Maintenant, la passeport présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Plus de 200 supporters du Zamalek échappent à la prison en Égypte.
La cour d'assises militaire a libéré 226 supporters du club de football égyptien de Zamalek. Ils avaient été arrêtés en juillet et placés en détention provisoire pour destruction de biens et troubles à l'ordre public. On rappelle qu'il y avait eu des incidents très violents dans le stade de Borj El Arab à Alexandrie en raison de l'exclusion du Zamalek de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Certains voient dans cette décision un geste d'apaisement alors que l'Égypte veut autoriser le retour du public dans les stades pour les championnats locaux. On rappelle que les matchs se jouaient sans public depuis 2012 quand 72 supporters avaient été tués à Port Saïd à l'issue d'un match entre le Al Ahly champion d'Égypte et l'équipe locale d'Al Masri. Ce sera également un geste d'apaisement pour l'Égypte qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.
Le choc demain entre le Bayern et Dortmund en Coupe d'Allemagne.
À l'Allianz Arena, les Bavarois auront toutes les raisons de redouter le Borussia Dortmund qui s'est imposé à Munich lors de ses deux dernières visites dans cette compétition. Pour ce huitième de finale, à noter que le Bayern Munich vient d'engranger 14 victoires en 15 matchs depuis le retour de Jupp Heynckes sur le banc des Bavarois.
Nouveau scandale de dopage autour du sprinter américain Justin Gatlin.
L'athlète suspendu 2 fois dans sa carrière pour dopage a limogé son entraîneur, pris la main dans le sac par des journalistes du Daily Telegraph auxquels l'entraîneur aurait proposé des produits dopants et de les introduire illégalement aux États-Unis.
Et bien sûr, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Boston bat sur le fil Indiana, 112 à 111. Oklahoma arrache la victoire contre Denver, 95-94. Houston, 14e victoire d'affilée contre Utah, 120 à 99. À Los Angeles, défaite des Lakers contre les Clippers en prolongation, 114 à 116.
Kobe Bryant au panthéon de la franchise californienne de la NBA.
Oui, les Lakers ont organisé hier soir une cérémonie de retrait de 2 maillots, les numéros 8 et 24 de leur ancienne gloire, Kobe Bryant. Désormais accroché au plafond du Staples Center, ces maillots ne pourront plus être portés par des joueurs de l'équipe.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. La Tunisie organisera le 6 mai 2018 ses premières élections municipales depuis la chute de Zine El Abidine Ben Ali en 2011. L'annonce a été faite ce mardi par le président Béji Caïb Essebsi. Ces élections ont été maintes fois reportées. Au total, près de 5 millions de Tunisiens devront élire les responsables de 350 municipalités sur la base d'un scrutin proportionnel à un tour. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Mourad Selami, le rédacteur en chef du journal Le Quotidien de Tunisie et de Dune Voices.
La classe politique n'est pas prête pour des élections qui vont nécessiter 7000 candidats dans 360 municipalités. Donc c'est un nombre très élevé par rapport aux capacités des partis politiques. D'autre part, et c'est très important, il y a le code des collectivités locales. Le nouveau code s'inspire de la nouvelle constitution de 2014. Cette nouvelle constitution accorde un nouveau pouvoir local à ces municipalités. Donc du coup, si on va élire les municipalités sur la base du code des collectivités locales de 1975, ce sont de simples agents administratifs qui appliquent les consignes du gouvernement. Par contre, si on applique la nouvelle constitution, ils vont avoir des budgets, ils vont avoir des impôts locaux, etc. Donc c'est ça qui est vraiment important et qui va donner cette portée locale aux élections, cette portée locale au pouvoir en Tunisie d'après 2011. Donc, puisque ce code n'est pas encore prêt, et puisqu'il y a beaucoup de tiraillements autour de ce code-là, même si le président de la République a signer l'appel aux électeurs, c'est pas évident que l'on arrivera à faire ces élections le 6 mai 2018.
Bref, pas mal de défis à relever avant la tenue de ces municipales. La commission électorale sera-t-elle prête?
Exactement. L'ISI, l'instance supérieure indépendante des élections, était en pleine crise. On venait juste d'élire son nouveau président et il y aura à élire 3 autres membres, parce qu'il y a une relève chaque 2 ans, on a à changer le tiers de la commission électorale. De 2, le personnel de l'ISI, après avoir annoncé la tenue des élections en novembre ou décembre 2017, ensuite en mars, elle a dû se séparer de plusieurs centaines de ses employés qui sont tenus à organiser ces élections. Donc, il faut qu'ils recrutent de nouveau. Donc, l'ISI aussi n'est pas vraiment prête pour relever ce défi, à moins qu'ils acceptent de le faire avec le moindre effort.
Si elles ont effectivement lieu, ce seront les premières municipales depuis la chute de Ben Ali en 2011. Quels en seront les enjeux pour la Tunisie?
Il y a 2 importants enjeux pour ces élections-là. D'abord, c'est un scrutin à portée nationale entre 2 élections générales. C'est-à-dire, c'est un scrutin bilan de l'exercice du pouvoir durant les 4 dernières années, depuis 2014 jusqu'en 2018. Donc, c'est un test grandeur nature pour le pouvoir en place. Et le second grand enjeu, c'est que puisque c'est municipal, c'est local, si les partis au pouvoir et les autres partis n'ont pas voulu faire les élections, c'est que des surprises dans des élections locales sont toujours possibles. Se trouver face à un pouvoir local qui a de l'autorité, ça dérange vraiment le pouvoir politique et c'est la raison pour laquelle plusieurs partis ont peur de ces élections.
Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien de Tunisie et de Dune Voices, il était joint à Tunis. Direction Rabat, où l'association marocaine des parents et amis des personnes handicapées mentales a ouvert un restaurant baptisé Hadaf, qui signifie « but » en arabe. Lieu de partage et d'échange, ce restaurant solidaire a pour objectif de changer le regard de la société sur le handicap mental et de favoriser l'insertion professionnelle des déficients mentaux. Un reportage signé Sabrima Hakim.
On pourrait se croire dans n'importe quel restaurant de Rabat. Pourtant, nous sommes ici, dans les locaux de l'association marocaine des parents et amis des personnes handicapées mentales. Une quinzaine d'handicapés mentaux s'affairent en cuisine et en salle pour offrir aux clients un service impeccable. Il y a quelques mois, l'organisation a lancé une formation en restauration à ses adhérents, un moyen pour ces jeunes handicapés de gagner en confiance et d'apprendre un métier. Toufik est chef de rang.
Quand je suis arrivé ici, je ne savais rien faire. Après quelques cours, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis allé en cuisine et après plusieurs années, je suis devenu bon.
D'après le ministère de la Famille, le Royaume du Maroc compte 2,3 millions de personnes handicapées. Malheureusement, moins de la moitié d'entre eux sont scolarisés et le taux de chômage des personnes en situation de handicap s'élève à 48%, soit 4 fois plus que la moyenne nationale. Amina Mesfer est présidente de l'association RADAF.
En fait, l'association RADAF est née d'une initiative parentale. Donc, une famille confrontée à l'handicap de son enfant a décidé de se mettre avec d'autres familles et ainsi devenir plus fort. Et créer ensemble une association dont l'objectif principal est l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.
Expérience pilote lancée en partenariat avec l'Initiative pour le développement humain, le restaurant a été conçu pour bousculer les préjugés et servir de tremplin à ces jeunes déficients mentaux, grands oubliés du marché du travail. Youssef est chef cuisinier.
J'aimerais pouvoir travailler et devenir chef cuisinier. J'apprends à travailler pour devenir chef cuisinier. J'aimerais pouvoir travailler et devenir chef cuisinier. J'aimerais être chef cuisinier, avoir une femme et aussi une voiture.
Outre la restauration, l'ADAF forme ses jeunes à différents métiers allant du jardinage à la menuiserie ou la couture afin de permettre leur inclusion sociale et professionnelle et faire comprendre à la société marocaine que les personnes handicapées doivent être considérées comme des citoyens à part entière.
Au Cameroun, fin de la rupture du vaccin contre le BCG utilisé pour prévenir la tuberculose chez les nourrissons. Ce vaccin était en rupture de stock depuis le début du mois de décembre dans tous les hôpitaux du territoire national. Avec l'arrivée de nouveaux vaccins, les premières prises de ce vaccin oral sont programmées pour ce jeudi. D'ici là, le personnel de santé recommande toujours aux parents d'appliquer de strictes mesures d'hygiène. Depuis Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tape.
À l'hôpital Bethesda à Yaoundé, une institution sanitaire privée, l'on administrait le vaccin contre le BCG chaque vendredi. Depuis le début du mois de décembre, ce chronogramme n'était plus respecté, faute du dit vaccin. Situation similaire à l'hôpital de district de santé de la Cité Verte, une formation sanitaire publique. Jeanne, une jeune mère, revient du dit hôpital. Elle est sensibilisée sur les précautions à prendre en attendant la disponibilité du vaccin.
On nous conseille d'éviter les enfants contre les maladies contagieuses. Comme elle a 9 jours, on ne peut pas trouver son médicament à la pharmacie.
Et vous avez cherché à vous faire vacciner l'enfant?
Oui, aujourd'hui même, j'étais là à la Cité Verte.
Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Bientôt, quand même, c'est ce qu'on dit.
Bientôt, les vaccins contre la tuberculose seront disponibles. Quand donc? Jeudi prochain, selon le ministre de la Santé publique, qui a rendu public un communiqué sur les ondes de la radio d'État. Les stocks acquis par le gouvernement camerounais étant arrivés à Yaoundé par voie aérienne dans la nuit de samedi à dimanche. Toutefois, au programme élargi de vaccination, la structure qui coordonne les campagnes de vaccination au Cameroun, l'on recommande l'observation des mesures d'hygiène. Joint au téléphone, Joël Makam, chef section communication pour le développement du groupe technique central au programme élargi de vaccination à Yaoundé.
Les vaccins seront disponibles, mais en attendant, quand une maman a un bébé, tout le monde veut porter, tout le monde va embrasser sur la bouche, il faut éviter ça. Et il faut observer les mesures d'hygiène, c'est tout. Puisque l'enfant n'est pas encore immunisé, l'enfant peut se contaminer facilement. Par exemple, il y a une grippe qui circule actuellement, il ne faut pas donner les enfants à tout le monde.
Le 9 décembre dernier, Paul Biya, président du Cameroun, a ordonné le déblocage de la somme d'1 milliard de francs CFA pour un approvisionnement en urgence en vaccin BCG en rupture. Une annonce qui a fait polémique, puisque 2 jours plus tôt, le ministre de la Santé publique justifiait la rupture du vaccin par l'engorgement des commandes dans le circuit international des vaccins. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun enregistre une pénurie du vaccin BCG. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal, la NBA a lancé vendredi une ligue de basketball destinée aux garçons de 15 ans et moins. La NBA Junior League Sénégal comprendra 30 équipes d'école de Dakar et Thiès, une ville située à 70 km de Dakar, qui s'affronteront pour le championnat. Les équipes de chaque école recevront leur maillot. Un projet rendu possible grâce à un partenariat entre la NBA et Solectra International, une entreprise de solutions énergétiques investissant dans la croissance économique et l'emploi en Afrique. Le point avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagaye.
Après la NBA Academy Africa, le Sénégal accueille un deuxième programme de développement de la NBA. Amadou Galofal, vice-président de la NBA et directeur général pour l'Afrique, estime que cette initiative entre dans leur objectif d'universalisation du basketball.
L'objectif, c'est de continuer à rendre le basketball accessible à tous les jeunes garçons comme filles qui en ont la passion pour qu'ils puissent la pratiquer. Notre programme Junior NBA, qui représente notre programme de participation mondiale avec 18 millions de jeunes de 53 pays à travers le monde, nous avons aujourd'hui 12 ligues dans 11 pays, parce que notre ambition, c'est d'être dans tous les coins du continent, dans tous les coins du Sénégal, où le besoin se fait sentir.
Pour mettre en place cette Junior League au Sénégal, la NBA a pu compter sur un partenariat de 5 ans avec la société Solectra, qui a construit le terrain où va se dérouler la compétition. Samba Bachili, PDG de Solectra International, affirme que leur but et d'aider les jeunes Africains à vivre leur passion.
Pour que le basket soit vulgarisé en Afrique, il va falloir faire des infrastructures. Nous sommes engagés à financer ces infrastructures partout où le besoin se posera. Nous avons décidé de le commencer au Sénégal parce que on a à côté l'académie que la NBA a mis en place. Parce qu'il faut aussi quelque part un accompagnement de la NBA pour organiser les tournois Junior NBA pour qu'on puisse détecter des talents et puis encadrer ces jeunes-là.
Pour Santi Agne, maire de la commune de Sikap où se tiendront les matchs, ce projet permettra aux jeunes de la commune de retrouver une aire de jeu qu'ils avaient perdue à cause de l'urbanisation.
Vous savez, ici, c'était une terre de sport. La route est passée, les terrains ont été détruits. La volonté humaine, la solidarité, l'esprit d'entreprise ont fait qu'aujourd'hui, les jeunes retrouvent leur terrain. C'est dans l'union et dans la convergence d'esprit qu'on peut arriver à faire les bonnes choses, les grandes choses. Nous espérons tout simplement que c'est le point de départ de détection de jeunes talents qui, demain, nous voudront des satisfactions.
En mai dernier, la NBA avait lancé sa première NBA Academy Africa, un centre de formation d'élite basé au Sénégal pour les meilleurs jeunes joueurs provenant de toute l'Afrique. La NBA Junior League du Sénégal est le 12e programme Junior NBA en Afrique. À Dakar, Seydina Abagaye pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaillimard. À la console, Monsieur Chang. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, bien sûr. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako.
Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.